Bonjour, vous êtes bien sur Esprit Occitanie, qui va vous faire entendre un certain nombre de rubriques, vous verrez, extrêmement diverses, extrêmement variées. C'est Patchwork. Alors au menu cette semaine, eh bien vous allez entendre la chronique de Maître Marie, chronique juridique de notre avocate et amie Marie Lebert. Vous entendrez également une rubrique sur la finance, rubrique un peu décalée, vous verrez, ça s'appelle la Casa de Ebel. Vous entendrez aussi une lecture. Nous avons décidé sur Esprit Occitanie de vous lire un livre, c'est un polar, vous verrez cela. Nous avons une lectrice de choc. Et ensuite, nous finirons par notre œnologue, Mariam, qui ne sera présente que la semaine prochaine. Donc, vous entendrez une rubrique qui s'appellera « Une semaine, un vin ». Elle vous parlera également du terroir de ce même vin. Voilà, Patchwork, vous avez le menu et c'est parti.
À tous. Heureuse de vous retrouver dans le Patchwork sur Esprit Occitanie pour ces chroniques de Maître Marie. Ici, on parle de droit sans non plus trop se prendre au sérieux. Mais comme disait un de mes profs de fac, surtout rappelez-vous qu'on ne fait rien de sérieux sans s'amuser. Et alors, dans cette idée-là, cette semaine, je vous propose un nouvel épisode des brèves de cours. Et non, malgré les merveilleux bruitages de notre chef de la technique, Hugo Pépitone, il ne s'agit toujours pas de tennis ni de sport, mais cette semaine, je vous propose un patchwork, cette circonstance, de jurisprudence. Un joyeux mélange de conflits de voisinage, copropriété, droit immobilier, droit locatif. Alors c'est parti, découvrons ensemble ce panel de jurisprudence récente de la Cour de cassation. Première petite histoire, une histoire qu'on aurait pu intituler « Le cèdre, les épines et le voisin ». Un propriétaire possède un cèdre sur son terrain et son voisin situé en face dans la rue lui demande d'élaguer le dit cèdre parce que des branches débordent sur la rue et à cause du vent, des brindilles se répandent sur son terrain. Le propriétaire refuse et donc le voisin engage une action en justice sur les brindilles. Il y a des gens très motivés. Action irrecevable selon le propriétaire, il constate que les branches du cèdre ne débordent pas chez son voisin et il relève que leurs propriétés séparées par une rue ne sont pas contiguës. Or, les textes disent que seuls les voisins dont les terrains sont directement contigus peuvent se contraindre à élaguer des arbres. Enfin, l'arbre quasi centenaire périrait de manière certaine s'il était élagué, provoquant ainsi un dommage irréparable à l'écosystème local. Et bien, ces arguments vont convaincre le juge qui va considérer que son voisin n'étant pas fondé à réclamer l'élagage du cèdre pour toutes ces raisons, sa demande est rejetée. Voilà, la Cour de cassation nous a dit ça dans un arrêt du 20 juin 2019. On continue avec les charmants rapports de voisinage et sur une histoire de division de terrain. Un propriétaire divise en deux son terrain et vend une des deux parcelles. L'acquéreur de la parcelle y construit une maison comportant un préau situé près de la limite de propriété. Oui, mais voilà, c'est trop près au goût du propriétaire vendeur initial qui demande à son nouveau voisin de le détruire. Il rappelle que le contrat de vente prévoit qu'aucune construction n'est autorisée à moins de 3 mètres de la limite de propriété, distance non respectée ici. C'est vrai, va lui concéder le nouveau voisin, sauf que le contrat de vente interdit seulement les constructions en dur habitables. Et si le préau est bien une construction en dur, eh bien il n'est pas habitable. Et donc, pour lui, la construction du préau est tout à fait autorisée, d'autant que le propriétaire n'a pas contesté le permis de construire de la maison et du préau qu'il a pourtant eu entre les mains. Eh bien, à la lecture de l'acte de vente, là aussi, le juge va donner raison au nouveau voisin. L'emploi du terme « habitable » autorise effectivement la construction du préau qui n'est donc pas démoli. Voilà, et ça, c'est une jurisprudence qui date du 24 octobre 2019. Toujours sur les histoires de propriétaires, de ventes et d'obligations, un arrêt qu'on pourrait intituler « Another Brick in the Wall » en hommage au groupe Pink Floyd. Un propriétaire autorise son voisin à abaisser le mur séparant leur propriété de 40 cm, avec obligation de le remettre en état s'il décide de vendre sa propriété. Un contrat est signé pour mettre noir sur blanc les droits et obligations de chacune des parties. Le temps passe et 9 ans plus tard, le propriétaire vend sa maison. L'acquéreur demande alors au voisin de rehausser le mur en se prévalant du contrat que ce dernier a signé avec l'ancien propriétaire. Le voisin répond que non, il ne le fera pas. Selon lui, seul l'ancien propriétaire peut l'obliger à rehausser le mur. Faux, répond l'acquéreur. En achetant la propriété, les droits attachés au contrat lui ont aussi été transmis, ce qui lui permet de s'en prévaloir. Eh bien, à tort, répond le juge. Faute de préciser dans le contrat que les droits et obligations qui y sont attachés sont transmis à l'acquéreur, lui-même ne peut pas s'en prévaloir et il ne peut donc pas obliger le voisin à rehausser le mur de 40 cm. Donc, ben, pas de briques supplémentaires dans le mur. On continue avec nos histoires de terrain et notamment avec une histoire de squatteur. On a comme ça quelques affaires qui se plaident à Toulouse et d'ailleurs devant tous les tribunaux d'instance de France en matière de squat. Des propriétaires d'un terrain vierge ont vu des squatteurs s'installer avec des caravanes. Et les dix squatteurs ne veulent pas quitter les lieux. Les propriétaires réclament donc leur expulsion en justice. Mesure disproportionnée selon les squatteurs. Selon les propriétaires, cette mesure a pour objet de protéger leurs droits de propriété. Et les squatteurs considèrent, eux, de leur côté, que eux aussi possèdent des droits destinés à les protéger, dont le droit au respect de leur domicile et de leur vie privée. On est en pleine lutte des droits fondamentaux. Or, selon eux, en mettant en balance le droit de propriété et le droit au respect de leur domicile, prononcer une mesure d'expulsion apparaît disproportionnée. Mais ça ne va pas convaincre le juge, qui rappelle que l'expulsion est la seule mesure assurant au propriétaire une protection de son droit de propriété. Dès lors, il est possible de déroger au droit au respect du domicile en prononçant une mesure d'expulsion à l'encontre des squatteurs. Je rajoute en petite observation en plus que quand on est squatteur, on est occupant sans droit ni titre, ce qui vient quand même de beaucoup limiter la protection à laquelle on peut prétendre. Alors, on a parlé propriétaire, mais dans tout ce patchwork de jurisprudence, on a aussi des histoires de bail d'habitation et de locataire. Et là, en l'occurrence, on a une petite histoire qu'on pourrait appeler le locataire, son départ, le propriétaire et l'huissier. Ça fait beaucoup de monde pour un départ, mais visiblement, ils se sont bien amusés. Un locataire donne son congé à son bailleur et un litige survient sur le délai de préavis qui n'est pas respecté par le locataire. Ce litige va rendre très difficile les contacts entre eux, on peut l'imaginer, et au jour de l'état des lieux de sortie, bien que le locataire ait été convié par son bailleur, il ne se présente pas. Malgré plusieurs relances, le bailleur finit par constater qu'un établissement amiable d'état des lieux de sortie est impossible, et il finit alors par charger un huissier de justice d'établir cet état des lieux. Et selon lui, selon le bailleur, les frais d'état des lieux et de déplacement de l'huissier doivent être réalisés aux frais du locataire vu son comportement, puisqu'il n'a pas voulu se présenter et qu'il aurait contraint son propriétaire à recourir au service d'un huissier de justice. Pour le locataire, les frais d'établissement d'un état des lieux par huissier de justice sont toujours partagés pour moitié entre le bailleur et le locataire, peu importe que l'un ou l'autre ait eu un comportement fautif. Et le juge va suivre cette théorie en appliquant strictement les textes et en disant que malgré le comportement du locataire et quand bien même c'est lui qui a contraint son bailleur à recourir au service d'un huissier, le bailleur doit quand même partager et payer pour moitié les frais de l'huissier de justice et de son acte. On continue, alors ça peut en intéresser peut-être plus d'un parmi vous et à juste titre. On continue toujours avec une histoire de droit locatif. Vous connaissez tous la plateforme de location Airbnb. Vous y avez peut-être même recouru pour aller passer un merveilleux week-end ou de merveilleuses vacances quelque part. Mais vous avez peut-être eu l'envie aussi de devenir à votre tour hôte en vous disant, si je sous-louais ma petite maison ou mon petit appartement. Mais attention, la Cour de cassation confirme, c'est un arrêt de septembre 2019, sa position sur ce point-là. Et être hôte Airbnb quand on est locataire, c'est risqué. On a dans cet arrêt un locataire qui décide de sous-louer son appartement sur Airbnb sans l'autorisation de son bailleur. Et bien évidemment, le bailleur finit par apprendre qu'il y a eu plusieurs sous-locations de l'appartement, alors même que le contrat de bail initial signé entre deux l'interdit. Il demande donc au locataire de lui reverser toutes les sommes perçues sur Airbnb. Non, dit le locataire. Pour lui, le bailleur n'a subi aucun préjudice, ayant toujours perçu le loyer de son locataire. En outre, même si elle est illicite, alors le gars il y va franco quand même si elle est illicite, la sous-location via des plateformes de type Airbnb reste valable entre le locataire et le sous-locataire. Et donc, c'est toujours le seul locataire initial qui doit percevoir le sous-loyer versé par celui qui a loué l'appartement ou la maison sur la plateforme. Le bailleur simple tiers au contrat, si on suit la logique du locataire, eh bien, ne peut pas réclamer et obtenir le versement des sous-loyers. Le bailleur tient bon et conteste en disant que dès lors que la sous-location est interdite, les sous-loyers perçus par le locataire doivent lui être intégralement reversés et le juge va donner raison au bailleur. Voilà. Et ça, c'est un arrêt donc de la Cour de cassation du 12 septembre 2019. Donc, si vous êtes locataire et que vous avez l'idée de vous faire quelques menus monnaies en sous-louant votre logement sur Airbnb, attention, parce que selon les clauses de votre bail, eh bien, ça peut ne pas être une bonne idée du tout. On passe de la location à la copropriété avec une jurisprudence récente qui opère un petit rappel, mais c'est toujours bon de s'en souvenir. Alors là, en plus, c'est bien parce que c'est un rappel tout en finesse. On a un règlement de copropriété qui prévoit que seuls les copropriétaires habitant dans les étages doivent payer l'entretien de l'escalier extérieur de l'immeuble. C'est toujours charmant et très poétique, les règlements de copropriété. Ce que ne comprend pas un copropriétaire qui estime que tout le monde doit payer parce que ça serait plus juste. Pour le syndicat des copropriétaires, puisque l'escalier extérieur dessert uniquement les étages, il n'est d'aucune utilité pour les copropriétaires habitant au rez-de-chaussée et il est donc normal et justifié qu'ils ne participent pas à son entretien. Oui, mais voilà, le copropriétaire en question est têtu et alors il soulève que l'entretien de la VMC collective nécessite de passer par l'escalier extérieur. Cet escalier présente donc une utilité certes légère, mais une utilité tout de même pour les copropriétaires du rez-de-chaussée, justifiant qu'ils participent eux aussi à son entretien. Et alors le juge va confirmer, mais alors en finesse, tout en validant la clause, en nous disant que justement parce que l'utilisation n'est que très occasionnelle, avec une utilité très légère, eh bien, puisqu'elle n'est que très légère pour les copropriétaires habitant au rez-de-chaussée, ils n'ont rien à payer. Voilà, donc escalier, ascenseur, quand vous êtes au rez-de-chaussée, c'est maintenu par la Cour de cassation, ça ne vous coûte rien. Et pour finir, eh bien, on va terminer avec une petite histoire qu'on pourrait appeler l'agent immobilier entremetteur, la femme et le mari. Calmez-vous, c'est juste une histoire de mandat de vente. Enfin, exactement, justement, pas de mandat de vente, mais vous allez voir, de mandat d'entremise. Un agent immobilier se voit confier la mission de vendre deux parcelles appartenant à un couple. Il a trouvé un acquéreur pour chacune des parcelles, mais le couple finalement refuse de signer les actes de vente. À tort, selon l'agent immobilier, puisque les offres d'achat correspondent au prix de vente convenu avec le couple et inscrit dans les mandats. Mais le couple rappelle que ces mandats n'ont pas été signés par le mari, et pour eux, ce manquement formel les rend nuls. Non et nuance, conteste l'agent immobilier, les mandats lui donnaient pour mission de rechercher des acquéreurs et non le pouvoir de vendre les parcelles ou de représenter le couple à la vente. Et donc, il s'agit de simples mandats d'entremise. Or, pour qu'un mandat d'entremise soit valable, il n'est pas nécessaire que les deux membres d'un couple le signent. Et le juge, et puis en suivant la Cour de cassation, eh bien, vont donner raison à l'agent immobilier. Les mandats signés par l'épouse étant des mandats d'entremise et non des mandats de vente, sa seule signature suffisait effectivement à les rendre valables. Et donc, vous aurez compris et vous vous souviendrez que cela aurait été bien différent pour un mandat de vente. Voilà, c'est la fin de ce petit patchwork de jurisprudence un petit peu fourre-tout en droit immobilier, droit des biens, droit civil. J'espère que vous aurez pu y trouver quelques informations intéressantes. Pour celles et ceux qui auraient raté ces chroniques en première diffusion, eh bien, retrouvez le patchwork ce soir à 23h et mercredi matin à 10h en rediffusion et bien sûr toujours en podcast sur www.espritoccitanie.fr. Et comme chaque semaine, je vous laisse maintenant dans la Casa des Ebel avec Eric, notre financier décalé.
Bonjour et bienvenue dans la Casa des Ebel. Aujourd'hui, comme nous sommes en période de cadeaux, à mon tour de vous en faire un. Chers amis auditeurs, en cette fin d'année, avez-vous fait le plein d'abondement ? Abondement, vous avez bien entendu. Mais au fait, l'abondement, qu'est-ce ? L'abondement fait partie des dispositifs proposés dans le cadre plus large de l'épargne salariale. Alors, pour une petite information, l'épargne salariale, et ça peut vous intéresser, est le dernier quasi-havre de paix fiscale et sociale en France. Alors, quasi, simplement parce que certains politiques, bon, qui aujourd'hui font beaucoup de conférences, écrivent des bouquins, puis ont peut-être peu de chances de revenir au gouvernement, ont imaginé un truc qui est génial, qui s'appelle le forfait social. Alors, il a commencé à 2%, Mais comme souvent en France, on crée quelque chose qui dure pas longtemps, qui coûte pas cher, mais qui dure en réalité très longtemps et qui monte très très fort. Simplement, le taux a fait 2, 4, 8, 20. Alors 20, c'était un monsieur qui était petit, qui avait souvent l'épaule qui montait, et qui a dit « je ne monterai pas les impôts », puis il a commencé juste par faire 2,5 fois sur ce forfait social qui n'a pas tué l'épargne salariale, mais qui aurait pu être assez désagréable. Alors, l'épargne salariale, qu'est-ce que c'est ? Il y a plusieurs dispositifs. Alors, j'en ai dénombré 4. Le premier, c'est la participation. La participation, ça a été inventé par le général de Gaulle. L'idée, c'est de distribuer les résultats à l'ensemble des collaborateurs et pas uniquement aux actionnaires. Alors, je ne suis pas mon anticapitaliste de base, mais voilà, c'est un dispositif qui est intéressant, qui est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés qui font des bénéfices. Alors, en général, les entreprises de plus de 50 salariés font au moins une fois des bénéfices, donc il est possible que si vous êtes dans ce cas, vous ayez droit à de la participation. La participation pour les entreprises de moins de 50 est facultative, mais peut être mise en place. La formule de calcul est déterminée par la loi. Donc, c'est le minimum vital que vous recevrez en cas de bénéfice de votre entreprise. L'entreprise peut décider également de prendre une formule dérogatoire, mais qui doit toujours avoir un calcul supérieur. Le résultat du calcul doit être supérieur à la formule de calcul légale. La fiscalité est quasiment nulle si vous versez cette somme dans un plan d'épargne, qu'il soit entreprise court terme ou perco long terme. La contrepartie, c'est que l'argent est bloqué plus ou moins longtemps. Le deuxième dispositif est l'intéressement. Alors l'intéressement, c'est un peu comme la participation, c'est-à-dire que l'entreprise verse une somme, mais en fonction de critères qui sont autres que le bénéfice. Ça peut être à peu près tout ce que vous pouvez imaginer, du moment que ça soit en accord entre la direction et les représentants des salariés. De même, la fiscalité est quasiment nulle si vous le versez toujours dans un plan d'épargne. La participation et l'intéressement depuis quelques années peut être perçu partiellement ou en totalité par le collaborateur. Bon, à ce moment-là, le problème, c'est qu'on paye des impôts sur cette somme, mais elle est disponible immédiatement. Le troisième dispositif, c'est l'abondement. Alors, l'abondement nécessite obligatoirement que votre entreprise ait, au sein de son arsenal social, un plan d'épargne entreprise. Les sommes versées sur ce plan d'épargne, alors l'abondement, pour être versé, doit nécessiter soit une participation qui sera abondée, mais que vous versez sur le plan d'épargne entreprise et qui à ce moment-là sera abondée par l'entreprise, soit l'intéressement qui est abondé, soit si vous n'avez ni intéressement ni participation, mais uniquement un plan d'épargne entreprise, à ce moment-là, il faut que vous fassiez un versement volontaire sur ce compte qui sera abondé par l'entreprise. C'est-à-dire que vous versez une somme et l'entreprise versera à son tour une somme qui sera fonction de deux critères. Le premier, c'est le montant que vous versez, et le deuxième, c'est ce qu'on appelle le taux d'abondement. Alors, le taux d'abondement, c'est quelque chose qui est génial, parce que ça peut aller jusqu'à 300%. Simplement, c'est que vous pouvez verser 1 000 euros, et votre entreprise peut verser jusqu'à 3 000 euros. Alors, clairement, à ce moment-là, si vous avez 300% d'abondement, je vais vous dire un truc, débranchez votre cerveau, réfléchissez pas, allez sur le placement le plus sécurisé, donc du monétaire, même si vous perdez 1% par an, vous avez fait 300% one shot. Donc sur 5 ans lycée, je pense que même Madoff ne faisait pas mieux. Alors, pour information, le montant maximum que peut verser l'entreprise pour un plan d'épargne entreprise, donc court terme, c'est 8% du PAS, donc plafond annuel de la sécurité sociale en 2019. Alors, ne cherchez pas, j'ai fait le calcul pour vous. Enfin, Internet m'a donné le calcul. C'est 3 242 euros par an défiscalisé. Si en plus vous avez un perco, alors ça c'est plutôt bien parce que c'est plus 8, mais c'est 16%, la règle des 300% est la même. Donc ça vous fait 6 484 euros qui peuvent être défiscalisés en versant seulement le tiers. Donc ça fait quasiment, potentiellement, si l'entreprise a quand même les reins solides, hein, parce qu'il faut quand même pouvoir mettre pratiquement 10 000 euros par collaborateur, mais voilà, je connais quelques entreprises de secteurs qui marchent plutôt bien, qui ont, pas les deux dispositifs au plafond, mais qui versent en moyenne entre 5 et 6 000 euros d'abondement pour un versement collaborateur maximum, je crois, de 2 000 euros, ce qui est quand même intéressant. Enfin, faites le calcul et vous verrez, vous faites ça pendant 20 ans, vous vous mettez sur un placement peu risqué, vous voyez combien vous avez à la fin, ça vaut beaucoup d'autres mécanismes. Le quatrième mécanisme et qui est obligatoire pour avoir droit à l'abondement, c'est le PE et le PERCO. Alors, PE et le PERCO, le Je vais vous le faire plus lentement. Le PEE, le plan d'épargne entreprise, est un plan dont les sommes sont bloquées pendant 5 ans. C'est-à-dire qu'en contrepartie d'un avantage fiscal et social, vous avez un blocage pendant 5 ans. Mais n'oubliez pas qu'il existe 9 cas de déblocage anticipé, dont le mariage, le divorce, l'arrivée à la maison du troisième enfant, que ce soit par naissance ou par adoption. Bref, les cas, il est très rare, licenciement, il est très rare que vous ayez vraiment besoin de l'argent et que vous ne puissiez pas le débloquer. Si c'est pour acheter votre nouvelle voiture, là effectivement, à part avoir le droit à une loi spécifique du style Balladurette ou Sarkozette, c'était le nom des deux lois qui sont passées, qui ont permis de vider un peu, enfin de pouvoir récupérer l'argent sans avoir le délai de blocage. Le deuxième plan s'appelle le PERCO. Alors, c'est un peu le fonds de pension à la française, c'est le plan d'épargne retraite collectif qui, lui, le blocage est jusqu'à la retraite. Vous avez également des cas de déblocage anticipés, mais qui sont un peu moins nombreux, je crois, que de mémoire. Ça doit être, ils sont au nombre de 5. Alors, il n'y a pas la démission, ni le mariage. Il y a peut-être l'acquisition de la résidence principale, parce que le plus important pour la retraite, alors ça, ce sont des mécanismes retraite, hein, qui est un sujet un tout petit peu à la mode. Enfin, on entend un petit peu parler avec beaucoup de gens qui, je pense, n'ont pas lu grand-chose, mais qui parlent beaucoup. Surtout les journalistes, ça permet de faire vivre des radios, c'est assez génial. Cas de déblocage, oui, l'acquisition de la résidence principale est le point le plus important dans le cadre de la retraite, parce que quand vous savez que vos retraites seront 30, 40, 50% moins importantes que votre revenu, et si vous avez un loyer qui représente aujourd'hui 20% de vos revenus, demain, si vous avez une retraite qui est de 50%, à ce moment-là, la part du loyer passe à 40%, et c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué de vivre. Comment savoir si votre entreprise propose ce mécanisme ? Alors, c'est tout simple, vous allez voir votre DRH. Ou RRH. Enfin, vous allez voir les ressources humaines qui se fera un plaisir de vous répondre. Alors, pensez à lui demander deux petites choses. Est-ce qu'elle peut vous fournir le règlement du PE ou du PERCO ? Et à l'intérieur de ce règlement, vous allez avoir toutes les informations concernant le montant d'abondement, le taux d'abondement, et ensuite les fonds sur lesquels vous allez pouvoir verser ces sommes. Parce que le PE et le PERCO sont des enveloppes fiscales. À l'intérieur de ces enveloppes fiscales, il y a des fonds sur lesquels vous allez pouvoir verser. Alors, comment faire ce versement ? Enfin, comment faire pour verser ? Toujours avec la DRH, alors soit qui gère en interne le calcul de l'abondement, soit qui va vous mettre en relation avec une société que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui s'appelle le teneur de compte, et c'est chez cette entreprise que vous allez verser les sommes, qui sera ensuite gérée par une troisième entreprise qui s'appelle la société de gestion. Et dernier point que je voulais aborder, c'est sur quoi verser ? Alors, sur des FCPE, merci Eric, qu'est-ce que ça veut dire ? FCPE, ce sont des fonds communs de placement entreprise. Pour être plus précis, en fonction de votre appétence pour le risque, vous aurez à choisir entre différents fonds ayant des niveaux de risque différents. On va reparler de l'AMF, dont nous avons parlé précédemment dans diverses chroniques. L'autorité des marchés financiers, elle agrée les FCPE auprès des... Enfin, les sociétés de gestion font agréer les FCPE qui vous seront proposés auprès de l'AMF. L'AMF a une grille de risque, 7 niveaux, de 0 à 7. Alors 0, bon, c'est... je crois que non, même c'est de 1 à 7, pardon. 1, c'est le fonds monétaire. Alors clairement, aujourd'hui, le fonds monétaire vous rapporte moins quelque chose par an. Mais si vous avez 300% d'abondement, c'est pas grave, allez-y. Vous prenez aucun risque sur votre capital et vous savez combien vous récupérerez à terme, à peu près. Et 7, c'est grosso modo les fonds les plus risqués. Alors on va dire que c'est un fonds action française, petite capitalisation. C'est un fonds investi sur des startups. C'est un fonds investi sur la technologie. Enfin, voilà, vous avez vraiment un panel important. À 3 ou 4, vous avez des fonds qui sont soit actions, soit obligations, 50-50. Donc dans ce maringo de fonds qui vous seront proposés, à vous de faire votre choix. Mais n'hésitez pas, vous pouvez vous faire conseiller. Mais alors surtout, si vous faites conseiller, prenez une personne compétente. Pas évident à choisir, il y en a en qui vous avez confiance, ça c'est vachement important, qui vous raconte pas de conneries, qui vous dit pas on fait 10% sans prendre de risque, ça n'existe pas, c'est pas vrai, il y a un loup, et surtout qui connaît votre situation, parce que c'est facile de vous dire voilà, moi je te propose d'aller sur tel fonds, mais si c'est pas que vous avez potentiellement besoin de l'argent dans 4 ans ou dans 25 ans, c'est pas le même profil de risque que vous avez. Et puis, vous pouvez aussi avoir 30 ans devant vous et pas vouloir prendre de risque. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi avoir pris 300% d'abondement et vraiment vouloir capitaliser au maximum. Voilà. Donc, pour l'abondement, c'était... Si vous avez... Alors, n'hésitez pas. Hein, si vous voulez des précisions, faites-moi des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous en parler. Ça a été mon métier pendant 10 ans, l'épargne salariale. J'ai baigné dedans jusqu'au cou et c'était très, très intéressant. Juste une petite formule qui est très intéressante. Imaginez que vous avez de la participation, que vous avez un perco et que vous souhaitez sortir en capital. Donc la formule est toute bête. Réserve spéciale de participation plus un abondement qui vous est versé par l'entreprise. Tout ça versé dans un perco. Au moment de la retraite, vous sortez en capital. C'est pas compliqué, c'est zéro impôt et zéro charge sociale. Il n'y a pas mieux. À part le livret A, mais le livret A, ça doit être 0,75% par an et c'est limité à 22 000 et quelques euros en globalité. Donc, grosso modo, c'est pas aussi intéressant. Pour finir, alors ça m'est jamais arrivé, mais je vais vous faire une petite brève. Ce matin, je lisais dans un superbe journal qui s'appelle CNews, voilà. mais c'est pas l'intérêt de la revue, qu'il n'y a pas beaucoup... Il n'y a pas grand-chose, mais j'ai lu une phrase de Christine Lagarde, qui est la nouvelle présidente de la Banque Centrale Européenne. Si, vous rêvez pas. Une femme est à la tête de la Banque Centrale Européenne, c'est la première fois depuis sa création, après trois hommes, Christine Lagarde, qui dit « J'aurai mon style, ne surinterprétez pas, n'anticipez pas, ne faites pas de référence, je vais être moi-même, donc probablement différente. » Alors, différente de qui ? Différente de Wim Duisenberg, qui était le premier président de la Banque Centrale Européenne, qui est resté 4 ans, ensuite Jean-Claude Trichet, l'ancien patron de la Banque de France, qui a accepté de laisser Duisenberg prendre la première place, mais qui a quand même voulu absolument être un jour président de la Banque Centrale, donc il l'a été. Puis ensuite Mario Draghi, qui est un ancien de chez une société que tout le monde aime bien, qui s'appelle Goldman Sachs, qui a fait un tout petit peu de mal à un pays qui est pas très loin de chez nous, où il est bon de passer quelques jours de vacances, qui est la Grèce. Et j'ai juste aimé cette phrase parce que j'ai été voir Adult in the Room, le dernier film de Costa Gavras qui parle de la crise grecque. Et clairement, dans les personnages, je ne sais pas si le rôle de chaque personnage est véritablement bien retranscrit par le livre de Yanis Varoufakis et ensuite passé, mis sur écran par Costa Gavras. Mais si vous avez l'occasion d'aller le voir, et je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais voilà, ce que j'en ai ressenti, c'est que la seule personne qui était vraie en off et en on, c'était Christine Lagarde. C'était le petit clin d'œil sur l'actualité. C'était la Casa de Ebel. À la réalisation, Hugo Pépitone. Vous pourrez retrouver cette chronique en podcast sur le site de la radio www.espritoccitanie.fr. N'hésitez pas à commenter cette chronique. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle chronique. Et maintenant, je vous laisse en compagnie de notre enthousiaste lectrice d'Occitanie pour la lecture d'un nouveau chapitre du roman Superman ne volera plus.
Chers auditeurs, Monique Marc pour la rubrique La lectrice d'Occitanie. Nous découvrons aujourd'hui un nouveau chapitre du roman Superman ne volera plus de Gilbert Noguès aux éditions Kern. Il s'intitule La Java des bons enfants et comme vous en avez maintenant pris l'habitude, il débute par un couplet interprété par Raymond Caillemin.
Une explosion fantastique, non là pour laisser une brique. On crut que c'était Fantomas, mais c'était la lutte des classes.
Le jardin japonais peut être considéré comme une hérésie dans la capitale occitane. En tout cas, je partage cet avis. Mais pour bon nombre de Toulousains, il est devenu un havre de tranquillité. L'endroit idéal pour des rencontres amoureuses et pour deux individus anachroniquement différents, bien décidés d'y promener un cabot à roulettes. Profitant de l'attraction que l'animal suscite auprès des enfants et de leur nounou accompagnatrice, je me faufile entre les feuillus afin de voir si Superman est toujours là où il s'est envolé. Il n'a pas bougé d'un pouce, vous vous en doutiez je suppose, alors je reviens sur mes pas et je retrouve Consuelo et Spartacus. La matinée tira sa fin. Consuelo a emporté dans son triporteur quelques restes sortis de son petit réfrigérateur et nous avons, enfin elle, moi j'étais fauchée, acheté un pain tranché. Sur le banc, qui nous sert aussi d'observatoire, nous savourons 4 rondelles de saucisson, une compote de pommes et une banane en passe de se transformer en purée. Ce n'est peut-être pas un repas digne du restaurant de Michel Sarran, mais comme je n'y ai jamais mangé, j'ai du mal à faire la juste comparaison. « Faut que je te dise quelque chose, Gus. » Elle me dit ça juste au moment où je m'apprête à avaler la dernière rondelle de saucisson. « J'ai bien connu ton frangin, Jojo que je l'appelais. J'avais tout juste 17 balais et 50 putains de kilos de moins qu'aujourd'hui. On s'est connus grâce à Franco. J'écarquille les yeux, stoppant la mastication de mon ultime tranche de cochenaille. « Tu trouves ça étrange, mon Gus, mais c'est la pure vérité. » C'était en mars 1974. Elle me raconte alors ce passage de la vie de mon frère, dont je ne connais que quelques bribes. Georges et elle s'étaient rencontrés parmi les 50 000 manifestants, selon la police, qui s'opposaient ce jour de mars 1974, en battant le pavé de leur godillot aux ignominies d'un caudillo qui, dans l'Espagne franquiste, garrottait un anarchiste. Elle avait tout juste 17 ans. Lui, le vieux, en avait 19. Elle avait saisi la main de ce maigrelet chevelu et barbu. Ensemble, ils avaient crié le désespoir de toute une jeunesse. Le soir même, nous nous sommes aimés. Son visage s'éclaire, ses traits grossiers et lourdeaux semblent si fins et légers à ce moment. Un rayon de soleil subtil qui s'immisce entre les nuages fait briller la larme qui s'échappe de ses yeux. Cela a duré 10 ans. 10 ans d'un vrai bonheur. Nous partagions tout, nos joies, nos peines, nos désillusions aussi. La lutte contre les exactions du régime franquiste. Je l'imagine en Bonnie Parker, expropriant une agence bancaire pour financer les luttes, résistante faisant sauter les trains entre la France et l'Espagne. Je suis abasourdi, attentif au moindre de ses propos. Le Larzac, la loi Veil, mais aussi l'accélération du programme nucléaire. La lutte des LIP à Besançon, la cause du peuple de Sartre, le casse du siècle de Spaggiari, les désirs en Foucault, Deleuze, Guettari face aux tépistes, autogestion, autoréduction, émeute, sabotage, lutte armée. Les mots sortent de sa bouche, de tout son corps, comme un fleuve impétueux. Une larme coule sur sa joue. Je l'écoute et je ne comprends pas tout. J'essaye de me rappeler mes mêmes années. Je finis par trouver la mort de Mike Brandt, la victoire de Bernard Hinault au Tour de France et la création du loto. Je me sens petit. Et puis, l'arrivée de la gauche au pouvoir poursuit l'inconsolable Consuelo. Elle pose sa main sur ma cuisse. À la douceur première de ce geste, succède un malaxage qui m'arrache un cri de douleur contenu, car je mords ma lèvre inférieure. Mitterrand, je vois qu'elle cherche ses mots, que ce qu'elle va me confesser est une épreuve pour elle. « Putain, cet enfoiré !» elle parle de ce cher tonton, « a volontairement favorisé la montée du Front National, tout ça pour contrebalancer l'importance du Parti communiste de l'époque. Avec Jojo, on n'en pouvait plus. » Une petite fille s'est arrêtée devant nous et demande à sa mère « Il fait du patin à roulette, le chien ?» La mère, probablement en peine de lui offrir une réponse perspicace, lui arrache le bras pour l'éloigner. Le croissant que savourait la fillette finit sur le gravier, au grand bonheur de Spartacus. « Tu peux pas savoir ce que je l'ai aimé. Mitterrand ? Putain, mais t'es trop con !» Elle délaisse Spartacus, qui finit de se lécher les babines, et plonge un regard attendri dans le mien. « Non, Gus, pas Mitterrand. C'est Jojo, enfin Georges, ton frère, que j'ai aimé plus que tout. » Elle doit sentir que je me liquéfie, que je me désagrège, que je voudrais disparaître. Elle me parle du bonheur qu'elle a eu de rencontrer mon frère, et moi, je la bassine avec mes interventions imprévues. « C'est le seul homme que j'ai aimé. » Elle s'arrête, ses coudes s'appuient sur le dossier du banc. Son regard fuit vers le ciel encore dégagé de ce début d'après-midi ensoleillé. Elle inspire une grande bouffée d'air, malgré les rides. Son visage, rongé par les années et déformé par le trop de graisse, s'irradie au souvenir de ce bonheur passé. « Quand il a dû quitter la France, tu vois, Gus, Elle vient de passer un bras derrière mes épaules et je crains un malaxage nouveau. J'ai plus jamais voulu d'un autre type dans mon lit. Elle finit par éclater de rire. À part toi hier soir, mais là, c'est différent. Et pourquoi il est parti, Jojo ? C'est une longue histoire. Le rayon de soleil s'est abrité derrière des nuages qui assombrissent le ciel au-dessus du jardin japonais. Spartacus s'est réfugié sous le banc. Consuelo s'arrête de parler. Maintenant, je sais tout, presque tout, de cette histoire qu'il a liée à celle de mon frère. Après leurs premières effusions, ils avaient été de toutes les luttes en ce milieu des années 70. Leur soutien inconditionnel aux actions des garis. Aux détails qu'elles me donnaient, je me demandais jusqu'à quel point tous deux n'avaient pas contribué à l'enlèvement d'un banquier. La fin de la guerre du Vietnam, avec son cortège de manifestations quasi hebdomadaires dans les rues de Toulouse. Les rendez-vous estivaux sur le Rajal del Gorp au Larzac, les débats échevelés avec Lanza del Vasto, les nuits d'amour au milieu des moutons. En juillet 1977, ils étaient à Creys-Malville pour s'opposer au projet du surgénérateur Superphénix que le gouvernement de Chirac avait décidé de construire. Ils étaient là quand Vital Michalon a succombé, les poumons éclatés par une grenade offensive. J'opine de la tête à chaque nouvel individu ou événement cité. Certains noms me disent bien quelque chose. Je garde pour moi la mort de Claude François, je me doute qu'elle n'en a rien à foutre, et que ce détail, pourtant si éclairant de l'histoire, ne lui avait pas fait grand-chose. Je me rends compte que de mon côté, j'avais complètement zappé ces années-là. Je comprends la distance que Georges avait prise par rapport à moi. Je chantais « C'est ma prière », il chantait « Bella Ciao ». Je défilais en uniforme le 14 juillet, il défilait avec les insoumis au service militaire. Je m'étais abstenue en mai 1981, il avait voté pour la première fois, même s'il continuait d'affirmer « Élection, piège à con ». Je sens l'émotion qui étreint sa voix. On se disait qu'on n'allait pas changer d'appartement, mais qu'on pouvait en refaire les tapisseries. D'accord. La peine de mort a été abolie, mais putain, pas grand-chose n'a changé. Déçue par tant d'années d'espoir inassouvi, de luttes étranglées, de combats jugulés et enfin par cette gauche repue de caviar, Consuelo et Georges s'étaient radicalisés. Pas comme ces crétins et crétines qui se radicalisent sur Internet pour aller mener une soi-disant guerre sainte avec Daesh. Non, non. Consuelo revendiquait. Face à la violence institutionnelle, nous n'avions qu'une alternative, la légitime violence. En me disant cela, elle s'est levée avec rage et a brandi un poing vengeur. Spartacus, qui s'est levé contre ses pieds, en subit le désagrément et part dans un backside 180 qu'il complète par un nose slide ou un pop shove it. Là, j'hésite car je ne suis pas un spécialiste, qui s'achève contre les roues d'une pousseuse de poussette et son lardon braillard. Nous rions de bon cœur, sauf Spartacus, et je ne comprends pas pourquoi. Consuelo reprend. 1984, ce putain de Le Pen, tu vois de qui je parle là au moins. Je vois bien, et je le confirme à ma raconteuse en positionnant une de mes mains sur mon œil gauche. Imaginez que ce type ait perdu l'œil droit et le cours de l'histoire aurait pu être changé. Pas sûr. Le leader nationaliste devait venir pour un meeting. Alors, une semaine avant sa venue, la salle de la piscine Nakache était partie en fumée. Une explosion fantastique. T'aurais vu le spectacle. Elle fait plusieurs rotations avec ses bras et un « pfff » avec ses lèvres pour mieux traduire la déflagration. Ah, on l'a pas loupé. Je dis « on », mais c'est surtout un de nos camarades, plus motivé que nous tous, qui n'en pouvait plus de l'inaction générale, de la notoriété grandissante accordée à ce putain de borgne par le gouvernement et les médias. Un rictus malin au coin des lèvres, elle me précise. C'est une nana qui a revendiqué l'attentat depuis une cabine auprès de l'AFP, ajoute-t-elle, en mimant l'appel téléphonique, en faisant des cercles de la pointe de son index droit dans le creux de sa main. Vous suivez ? Je sais que c'est un peu complexe pour tous les jeunes détenteurs de smartphones, mais à l'époque, nous maîtrisions ce geste. Elle jubile en se remémorant ce moment. C'est comme ça qu'on a créé le scalp. Je l'imagine, telle Nathalie Wood dans La prisonnière du désert, avec bon nombre de kilos en moins. Section carrément anti-Le Pen, me précise-t-elle tout de suite. Elle anticipe mes questions et mon inculture libertaire. J'en déduis que le tomahawk de la guerre contre le borgne était entre de bonnes mains. Finalement, je pose des questions. Je veux savoir l'implication de mon frère dans toute cette histoire. Consuelo reste vague. Elle me parle d'une carrière en Ariège qui, bon gré mal gré, a fourni la dynamite et les détonateurs. Elle me raconte la destruction de ce transfo EDF qui a privé Airbus et la ville de Colomiers d'électricité. J'insiste pour savoir s'il y a eu des arrestations. Je vois dans le regard que Consuelo me lance une pointe de tristesse et beaucoup de retenue. Tu sais dessiner un svastika ? Et avant que je ne lui réponde mon incompétence un crayon à la main et mon ignorance totale de ce que pouvait être ce machin truc dont elle me parlait, elle avait précisé. C'est la croix gammée, en fait. Les nazis ont récupéré le svastika pour servir de symbole à l'ordre hitlérien. Elle se lance dans une explication détaillée de la signification de cette croix indienne, de ses origines, des variantes basques, bouddhistes. Elle me précise que la croix gammée est une variante d'extrogyre, c'est-à-dire qui tourne dans le sens des aiguilles de la montre. Tout ça pour me faire comprendre les raisons de l'arrestation du principal responsable de l'attentat de la piscine. Eh ben, le copain, il était un peu comme toi, nul en dessin, et il faisait la croix à l'envers. C'est comme ça que les putains de flics, elle ponctue d'un majeur tendu, ont pu le compromettre. Il a pas mal chargé. Tabassage, humiliation, et au final, 4 mois de zonzon. Et Georges ? Les poulets se doutaient qu'il était probablement dans le coup. Et le Jojo, il voulait pas tomber dans leurs mains. Je savais qu'il ne supporterait pas l'enfermement. Un matin, après une nuit, je te raconte pas la baisse d'enfer, j'ai trouvé un mot sur la table. Il me disait qu'il partait, qu'il quittait la France. Elle s'interrompt, se penche vers Spartacus qui ronfle entre ses jambes, lui caresse la tête. Je ne l'ai jamais revu. Du dos de la main, elle essuie la larme qui coule sur sa joue, en même temps que la gourmelle qui suinte de son nez. Bon, c'est pas tout. La claque que je viens de recevoir sur ma cuisse a d'une part fait sursauter le cornio, qui était reparti dans une séquence de ronflement, et d'autre part, manque de peu de me doter de 2 jambes folles. Rappelez-vous, je vous ai parlé de ma guibole handicapée. C'est pas tout, mais va falloir s'occuper de ton copain maintenant. C'est vrai que je n'ai pas vu passer le temps. Le parc s'est vidé, le peu de soleil qui a illuminé cette froide journée a disparu derrière les arbres qui longent le canal. Et Superman nous attend. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site www.espritoccitanie.fr ou sur l'application pour smartphone. Et je vous dis à la semaine prochaine.
Voilà, c'était Patchwork sur Esprit Occitanie, l'émission où vous avez pu entendre différentes rubriques et je vous l'ai dit en introduction, la semaine prochaine en plus on vous parlera d'un vin et de son terroir. Merci à Hugo Pupitone qui a monté cette émission et à très bientôt pour de nouvelles rubriques sur Esprit Occitanie.